Seigneur, on te bénit aussi pour ta présence spirituelle que nous avons pris par cette sainte scène hein, de nous d'affirmer que tu es avec nous et tu es aussi avec nous, Seigneur, à travers l'étude du texte de l'Écriture. Et Seigneur, bénis pour que cette parole, eh bien, elle nous rejoint, mais que nous, par ton esprit, nous puissions aussi aller dans son sens, qu'elle puisse nous rejoindre. Et Seigneur, que nous puissions la rejoindre, que nous puissions nous orienter. Seigneur, à l'écoute de cette parole, on te bénit, Seigneur. Amen. Voilà, j'aimerais apporter ce matin quelques réflexions autour du livre du Deutéronome au chapitre 30. Donc, je prendrai le livre de Deutéronome au chapitre 30. Alors, pour rappel, hein, on a ces cinq premiers livres de la Bible, la Genèse jusqu'au Deutéronome, qu'on appelle, pour les Hébreux, on appelle ça la Torah, la loi. Dans le grec, on a appelé ça le Pentateuque. En fait, le Pentateuque, ça veut dire que c'est les cinq livres, simplement parce que c'est les cinq livres qui introduisent l'histoire juive, et qui débute par l'histoire des patriarches, et puis qui va aller jusqu'à Moïse. Ces livres ont été écrits hein, sous l'impulsion de Moïse. C'est Moïse qui a pour but de rappeler le récit fondateur et puis de rappeler dans quel cadre s'est inscrite cette histoire et puis de rappeler aussi de mettre par écrit les lois qui vont être là pour fonder le peuple de Dieu. Et le texte que nous allons prendre ce matin se trouve tout à la fin de ce recueil et elle se présente à nous un petit peu comme un testament de la part de Moïse. C'est une section qui nous parle du renouvellement de l'Alliance, hein, et puis on voit que Moïse est un petit peu comme un grand-père qui va bientôt partir et qui lègue un peu son testament, qui décide de ne pas laisser ce peuple sans le mettre au courant de ce qui peut se passer. Et donc dans ces chapitres, nous avons affaire à un bilan que nous offre Moïse, à la fois de ce qu'il a reçu par les commandements de Dieu et à la fois de ce qu'il a reçu par ses expériences personnelles. Et il en conclut que le bonheur ne peut se trouver que dans l'amour de Dieu. Êtes-vous à la recherche du bonheur ce matin? Et on verra ce que Moïse est en train de nous dire, que le véritable bonheur ne pourra se trouver qu'en se livrant totalement à Dieu, par Jésus, dans une relation profonde d'amour et intime avec lui. J'aimerais prendre donc Deutéronome au chapitre 30, à partir du verset 1. Et voici ce que nous dit Moïse. Ces paroles que je viens de prononcer, les bénédictions et les malédictions, entre lesquelles je vous offre le choix, se réaliseront. Si vous prenez de nouveau à cœur, au milieu de tous les peuples parmi lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura dispersé, si vous retournez à l'Éternel votre Dieu, et si vous l'écoutez en obéissant de tout votre cœur et de tout votre être, vous et vos enfants, à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous. Il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de tous les peuples parmi lesquels il vous aura dispersé. Mais même si les exilés de votre peuple sont aux confins du monde, l'Éternel, votre Dieu, ira les chercher là-bas et les rassembler pour les ramener au pays de leurs ancêtres, que leurs ancêtres auront possédé, et ils en retrouveront la possession. Il les y rendra plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres. L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être et qu'ainsi vous viviez. Il infligera alors toutes ces malédictions que je vous ai décrites à vos ennemis, à ceux qui vous haïssent et qui vous auront persécuté. Quant à vous, vous reviendrez à lui, vous l'écouterez et vous appliquerez tous ces commandements que je vous transmets aujourd'hui. L'Éternel, votre Dieu, vous comblera de bonheur en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez. Il vous donnera de nombreux enfants, et il multipliera votre bétail et vous accordera d'abondantes récoltes. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à votre bonheur, comme il prenait plaisir à celui de vos ancêtres. Pourvu que vous l'écoutiez, en obéissant à ses commandements et ses ordonnances consignées dans ce livre de la loi, et que vous reveniez à lui de tout votre cœur et de tout votre être. J'arrêterai ici la lecture de l'Écriture. En fait, quand on lit le livre du Deutéronome, donc on a affaire à un peuple où on s'imagine qu'enfin ils ont compris ce que Dieu attend d'eux. Dieu redonne de nouveau la loi aux enfants d'Israël. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a toute cette première génération qui est sortie du pays d'Égypte, qui est morte sur la période de 40 ans, simplement parce qu'ils n'avaient pas cru à ce que Dieu avait dit. Et on se dit, enfin, ce sont les enfants qui reçoivent de nouveau la loi. Deutéronome signifie seconde loi, donc c'est la loi qui est redonnée de nouveau en entier, avec quelques éléments en plus pour un peuple qui vient se sédentariser dans un pays. On a envie de dire, enfin, le peuple va se sédentariser, c'est qu'enfin, le peuple a compris ce que Dieu attend de lui. Et nous sommes donc devant ce peuple qui va entrer dans le pays promis, et comme je le disais, donc on a tendance à croire que les promesses vont totalement s'accomplir. Mais pourtant, quand on suit attentivement les promesses que Dieu est en train de donner dans ce texte, on se rend compte que Moïse, lui, en fait, a bien compris que, malgré le fait que le peuple rentre dans le pays promis, il ne rentre pas tout à fait dans le repos. Et que même s'il va prendre possession d'Israël, eh bien, il n'a pas encore saisi et compris tout ce que Dieu attend de lui, puisqu'il y a des mises en garde. Si tu ne sers pas l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, eh bien, tu seras dispersé sur l'ensemble de la surface de la terre. Et alors, Moïse est en train de livrer un véritable cri qui vient du cœur. Là, on est vraiment dans ce testament que Moïse est en train d'offrir, et il est en train de dire aux enfants d'Israël, attention, même si vous vous éloignez de Dieu, il y a des conditions par lesquelles vous pourrez revenir à l'Éternel. Et la condition par laquelle vous pourrez conserver ce pays, par laquelle vous pourrez conserver ces promesses, c'est uniquement en observant bien attentivement ce que Dieu attend de vous. Et on va voir un petit peu plus la façon dont Moïse va nous livrer ces choses-là. Et Moïse est en train de nous dire, si tu veux trouver le bonheur, c'est simplement en te livrant entièrement, avec un cœur entier, totalement renouvelé, par l'Esprit de Dieu. Je donnerai une nouvelle circoncision, hein, nous dit ce texte, une circoncision qui n'est pas de la chair. Et donc, pendant que Moïse est en train de donner ce texte de la loi, il dit que ce n'est pas simplement en pratiquant la loi avec la chair que l'on pourra connaître Dieu, mais qu'il nous faut vivre quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus profond, qu'il nous faut vivre cette loi avec un cœur totalement changé, totalement transformé. Et j'aimerais suivre les conseils que nous donne Moïse dans ce texte, pour pouvoir avoir la vie bénie qu'il est en train de nous décrire. J'aimerais tout d'abord relever deux étapes dans ce texte. La première étape que j'aimerais relever, c'est que la bénédiction n'est pas innée. La bénédiction ne nous appartient pas parce que nous faisons partie d'un peuple, ou parce que nous sommes descendants de chrétiens, ou parce que nous pratiquerions telle chose ou telle chose des commandements de Dieu. En fait, comme je le disais, on se trouve face à cette deuxième génération de croyants qui a reçu la loi, et qui pourraient penser que c'est simplement en pratiquant cette loi qu'ils pourront se justifier. On aurait tendance, vous savez, à se dire, c'est cool, Dieu nous a donné toutes ces règles de l'Alliance, et il suffit simplement de pratiquer toutes ces choses de façon stricto sensu, telle qu'elles se livrent à nous. Vous savez, un petit peu comme si on était dans une espèce de troc avec Dieu. Simplement, je pratique la loi, alors je dois m'attendre à ce que Dieu accomplisse derrière ce que j'attends. Vous savez, un petit peu comme une relation employé-employeur. Votre patron n'attend pas que vous l'aimiez, votre patron attend simplement de vous que vous fassiez ce qu'il vous demande, et en contrepartie, il vous donne un salaire. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent s'arrêter de suivre le texte de l'Écriture simplement dans cette relation. Non pas dans une relation d'amour, mais simplement en se disant, si je fais telle chose et telle chose, eh bien j'obtiendrai la bénédiction de Dieu. Et ce texte que nous sommes en train de lire dans le livre du Deutéronome, nous laisse entendre qu'en fait, Dieu n'attend pas du tout cela de notre part. En fait, ce texte nous laisse même entendre que l'on se moque de Dieu si nous sommes simplement dans cette relation où l'on donne et l'on doit recevoir de sa part. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais quand je prenais des cours d'hébreu à Besançon, donc avec le rabbin, un jour, il y a vraiment cette chose qui m'a profondément choqué, il a dit, pour être juif, il ne faut pas croire. Pour être juif, il faut simplement pratiquer les 613 commandements, et si l'on pratique ces 613 commandements, eh bien, même si on ne croit pas en Dieu, eh bien, on fera partie du peuple élu, et puis Dieu nous attribuera une place auprès de lui. Alors, moi, j'entends ça avec mon regard chrétien, et je vous assure que ça m'a profondément choqué, et c'est un choc que, encore aujourd'hui, je suis profondément troublé, parce que je crois que s'il s'était penché un petit peu plus sur ce texte de la loi, et que s'il s'était rendu compte de tous ces commandements d'amour qu'il y a dans les textes des cinq premiers écrits qui nous sont livrés, eh bien, il se rendrait compte qu'il est à 20 000 lieues de réellement connaître Dieu. En fait, il ne faut pas chercher à marcher avec Dieu simplement dans le but d'obtenir un résultat. Et si on agit ainsi, ça nous montre que l'on connaît simplement une loi, fait ceci, fait cela, mais qu'on ne connaît pas Dieu. Et le texte que nous avons lu nous montre que Dieu n'est pas intéressé par une telle relation. Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous pratiquions des choses juste pour nous justifier. Dieu s'intéresse à quelque chose de beaucoup plus profond avec nous. Dieu veut établir non pas une relation employé-employeur, mais Dieu veut une relation d'amour. Dieu veut que nous puissions le connaître en profondeur, l'aimer tel qu'il est, tel qu'il se présente à nous. Et à partir de ce moment-là, le joug de la loi va complètement être explosé parce que nous ne serons plus amenés simplement à pratiquer telle chose ou telle chose, mais simplement à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et si tu en es toujours à penser que Dieu est dans un type de relation où il attends simplement des choses de ta part, eh bien tu te trompes. Dieu n'attend pas que tu pratiques simplement des choses. Dieu attend et aspire profondément à ce que tu puisses l'aimer. Cette première étape nous conduit, de fait, à constater que nous ne pouvons pas pratiquer la loi de nous-mêmes, de tout notre cœur. Elle sous-tend au constat que des choses viennent dysfonctionner dans notre vie. Elle nous conduit à découvrir un Dieu qui veut nous restaurer, parce que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes d'accomplir ce que Dieu attend de nous, parce que son commandement d'amour dépasse ce que nous sommes capables de faire. Et Dieu a pour but de pouvoir restaurer et établir une restauration qui vient de lui-même, une restauration que nous ne sommes pas capables d'établir nous-mêmes. Il veut raser ce qui est ancien dans notre vie pour pouvoir rétablir quelque chose, et quelqu'un plus précisément de neuf, quelqu'un de différent. C'est le Deutéronome au chapitre 30, verset 3, qui nous dit: Alors l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous. La compassion attire et sous-tend à l'amour. Ce n'est pas une relation donnant-donnant, mais c'est réellement une relation qui part à la base de Dieu lui-même. C'est une relation d'amour. Et puis, voici le résultat. Il aura compassion de vous. Il vous restaurera. C'est-à-dire rétablir, redresser. Vous savez, quand on restaure une maison, ou bien quand on se restaure. Vous savez, à la base, les restaurants, c'était les endroits qui étaient placés, donc c'était des auberges qui étaient placées le long de la route quand des pèlerins pouvaient passer ou quand des gens qui faisaient un long chemin pouvaient passer. Ils s'arrêtaient dans un restaurant pour se restaurer. Donc à la base, ça ne veut pas dire manger, mais ça veut dire qu'au bout de quelques heures, quelques jours de marche, on commence à avoir faim et on n'arrive plus à marcher. On s'arrête au restaurant, quelqu'un prend soin de nous, nous apporte de quoi manger, de quoi nous arrêter un petit moment pour pouvoir ensuite repartir et continuer notre chemin. Et c'est cette relation, Dieu nous accorde ce moment privilégié où nous pouvons nous arrêter pour pouvoir nous rétablir, nous restaurer, nous restituer. Et il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de tous les peuples parmi lesquels vous avez été dispersés. Et il fait de nous un peuple nouveau, il nous rétablit dans une relation nouvelle, il rétablit le lien social qui avait pu être brisé. C'est cet objectif de la restauration que Dieu veut. Et nous pouvons découvrir un Dieu qui restaure. La vie nous laisse des plaies, elle vient charrier tout plein de choses qui viennent se déposer, elle vient briser des choses et nous déconstruire. Et puis il nous faut constater qu'il n'y a personne de façon humaine qui est réellement capable de pouvoir faire le tri dans tout ce que nous avons, qui viendrait pouvoir nous rétablir, nous restituer. Et à certains moments, eh bien, il y a certaines choses qui sont venues nous blesser dans notre vie, qui sont des véritables handicaps, qui nous empêchent de pouvoir aller plus loin. Nous sommes prisonniers dans une vie qui n'a pas de sens si notre vie n'est pas restaurée. Bref, on se rend compte que les choses vont mal, et c'est là où nous amène cette deuxième étape. C'est pouvoir nous rendre compte que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, que nous ne sommes pas capables par nos propres forces de pouvoir rétablir cette relation avec Dieu, de pouvoir rétablir les choses dans notre vie. Bref, c'est à partir de ce moment-là que Dieu vient se présenter à nous comme le Dieu qui est capable de pouvoir nous restaurer, qui vient nous rétablir. Et cette manœuvre, ce commencement de la restauration, comme je le disais, ne peut venir ni de nous, ni de ceux qui sont autour de nous, parce que personne ne peut savoir ce qui est caché au fond de nous. Vous savez, tout à l'heure, on a chanté ce chant qui nous dit que personne n'est capable de voir ce qu'il y a au fond de nous, sinon toi seul, mon Jésus, qui vient rétablir mes peines et mes frayeurs. Et c'est ce que nous dit ce livre de Deutéronome. En fait, personne n'est capable de savoir ce qui est cassé au-dedans de nous, ce qui nous empêche de pouvoir vraiment repartir avec Dieu, sinon ce chemin de restauration qui vient de la part de Dieu. Et c'est assez intéressant dans le texte que l'on a lu, hein, on l'a dès le troisième verset sur les 10, et ça commence donc déjà, hein, c'est Dieu qui commence par rétablir les choses, et c'est seulement après, une fois que nous sommes restaurés, que nous allons pouvoir commencer un chemin, un processus nouveau. Voulez-vous être restauré? Et ce texte, au verset 4 et 5, nous dit... Même si les exilés de votre peuple sont aux confins du monde, l'Éternel, votre Dieu, ira les chercher là-bas et les rassembler pour les ramener au pays que leurs ancêtres auront possédé. Et ils en trouveront la possession. Il les y rendra plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres, ce qui pensait totalement impensable, impossible à vue humaine. Vous savez, on est dans le cadre de l'Ancienne Alliance, et dans le cadre de l'Ancienne Alliance, vous savez, être envoyé aux confins du monde, c'est à un moment faire le deuil du pays où l'on était envoyé, c'est complètement impensable. Vous savez, il faut des mois et des mois, et puis quand on est à l'autre bout du monde, eh bien, on ne pense pas à revenir de l'endroit d'où l'on est parti. Et même, je veux dire, c'est quelque chose de terrible, parce que ça veut dire qu'on est arraché à sa culture, que l'on se retrouve minoritaire à un endroit, et pourtant, Dieu nous dit que même à l'endroit où l'on pense que personne ne peut nous atteindre, Dieu nous voit et il nous fait cette promesse avec certitude. Si l'on se tourne vers lui, si l'on accepte que son amour puisse venir nous atteindre, il va enfin pouvoir nous restaurer, nous rétablir, nous ramener et même faire quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous pouvions penser ou imaginer. Il est même capable de nous rendre l'héritage est beaucoup plus, même puisqu'il est marqué que nous serons même plus nombreux, hein, il est capable de nous rendre beaucoup plus que tout ce que nous avions perdu. Il est celui qui non seulement rend un sens à ta vie, mais bien plus. Il te restitue même ce que ceux qui étaient autour de toi ont perdu. Alors est-ce que vous voulez cela? Est-ce que vous voulez obtenir cette bénédiction? Eh bien, il y a cette parole qui nous dit que nous devons, en contrepartie de cet amour qui nous est offert, revenir à Dieu de tout notre être. Au verset 2, hein, il nous a dit de revenir à Dieu de tout notre être. Chercher l'Éternel implique un engagement total. C'est vivre chacune de nos actions, de nos pensées, de nos choix, en nous consacrant totalement à Dieu. C'est de pouvoir lui consacrer notre vie, pouvoir affirmer que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire mettre toute notre vie à part pour lui. C'est pratiquer des actions de justice, non pas par crainte de Dieu, non pas parce que nous imaginons que Dieu attend quelque chose de notre part, mais simplement parce que nous avons saisi l'amour incroyable de Dieu. Et toutes les actions que nous allons pouvoir faire ne sont plus des œuvres par lesquelles nous allons pouvoir essayer d'établir un peu comme un troc avec Dieu. Vous savez, cette relation employé-employeur, en s'imaginant que si nous ne le faisons pas, que Dieu va tomber dans une colère incroyable contre nous, ou que si nous le faisons, que Dieu va pouvoir nous donner en contrepartie. Mais nous nous rendons compte, nous le savons, qu'à partir de ce moment-là, il y a une relation d'amour qui a été établie de la part de Dieu et qui nous amène en contrepartie, à répondre par amour à ce que Dieu est en train de faire. C'est changer de paradigme, c'est arrêter de penser que nous sommes donc dans cette espèce de troc, mais c'est quitter le désir d'une relation d'intérêt pour pouvoir entrer dans une relation d'amour et de confiance avec celui qui s'engage à nos côtés. Dieu n'a pas pour but de nous condamner dans ce texte, mais Dieu nous tend une perche qu'il nous faut saisir. C'est le pardon, la restauration qui sont possibles à partir du moment où nous reconnaissons notre tort, si nous confessons notre péché et que nous nous tournons vers Dieu. Confesser ses péchés, ce n'est pas seulement faire la liste de tout ce que nous avons pensé qui était mal, parce que sinon nous allons en oublier tellement que nous ne serons jamais capables de pouvoir confesser tout ce que nous avons fait de mal, mais c'est pouvoir confesser que nous n'avons pas assez aimé Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et à partir de ce moment-là, nous avons affaire à un commandement qui est un commandement parfait, le commandement d'amour, et qui à partir de ce moment-là dépasse même celui de la loi. Tout ce que nous ne sommes pas capables de pouvoir offrir, savoir que Dieu nous le restitue à partir du moment où nous ouvrons notre cœur à l'amour divin. Et vous savez ce qui se passe lorsque nous rendons compte que nous avons manqué d'amour vis-à-vis de lui, lorsque nous nous rendons compte que nous sommes éloignés de lui par manque d'amour, eh bien nous sommes réellement capables de pouvoir revenir dans la repentance, capables de pouvoir nous rendre compte que par nous-mêmes, nous ne serons jamais capables, par toutes nos œuvres et par nos actions, de pouvoir lui obéir. Et alors ceci nous invite à revenir à lui avec un amour débordant, se rendre compte de ce Dieu qui est capable de nous aimer au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Et en même temps qu'il nous ordonne de revenir à lui, eh bien il nous donne en même temps le moyen de pouvoir le faire. Et au verset 6, il nous est dit qu'il nous donne un moyen tout particulier. L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de ses descendants. Voilà, circoncira le cœur et celui de ses descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être et qu'ainsi vous viviez. Et à partir de ce moment-là, nous vivons quelque chose de différent. Il transforme notre cœur, c'est-à-dire qu'il y a une contrepartie à cet amour. Nous sommes libres de pouvoir offrir notre cœur entièrement à Dieu. Nous devenons capables de pouvoir apprendre à l'aimer. On est dans un monde qui naturellement n'est pas capable d'aimer. Alors bien sûr, j'ai envie de dire que spontanément, quand on regarde le monde et qu'on écoute un peu ce que disent les gens, on peut constater que les gens sont capables de fonder une famille, de pouvoir avoir des enfants, pouvoir des relations avec des amis. Mais c'est un petit peu en fait comme si on entrait dans un monde où au fur et à mesure que l'on s'éloigne de Dieu, en fait on est en train de créer des relations avec les gens qui sont des formes de CDD, vous savez, de contrats à durée déterminée. Et à partir du moment où il y a des conflits qui sont un peu trop grands, eh bien on va couper les ponts. On va couper les ponts avec certaines personnes de notre famille, on va même des fois couper les ponts avec notre femme, avec nos enfants, à partir du moment où il y a des choses qui ne nous correspondent pas. On est, je crois aujourd'hui, à 46% de divorces pour les couples mariés. Je me souviens, il y a quelques années, on parlait d'un tiers. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 46% de divorces. Donc, c'est pas loin d'un couple sur deux qui divorce, sans compter les couples qui sont créés et qui ne se sont pas mariés. Donc, ça vous laisse entendre clairement le nombre de séparations qui sont là. La circoncision du cœur n'est pas quelque chose que l'on peut faire par nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de pouvoir aimer et d'être agréables, ni à Dieu, ni à notre prochain par nous-mêmes, quand bien même on essaierait de toute notre force de pouvoir le faire, simplement parce que nos forces sont limitées. Comme je le disais, Moïse part d'un constat, peanuts, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Même si nous essayons, nous ne sommes pas capables d'aimer par nous-mêmes. Et c'est surprenant de voir que déjà dans l'Ancien Testament, il y a une critique d'une façon de chercher d'aimer Dieu ou d'aimer notre prochain par nous-mêmes. Mais c'est uniquement lorsque Dieu fait ce pas de pouvoir circoncire notre cœur, donc une circoncision que l'homme n'est pas capable de faire. L'homme est capable de circoncire par la chair, mais il n'est pas capable de pouvoir entailler quelque chose dans notre cœur pour pouvoir aimer de tout notre cœur Dieu. Et c'est uniquement Dieu qui peut nous rendre cette relation juste et saine, qui peut à partir de ce moment-là réorienter nos sentiments. Et si ce monde est dans une relation d'amour à court terme, et si l'on a pu constater déjà notre vie que l'on peut perdre, il n'en est pas ainsi avec Dieu. Dieu est éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, et il nous aime d'un amour éternel, et à partir de ce moment-là, on sait qu'il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera pas, il est extensible à l'extrême, bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Et à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus dans une relation en CDD, à contrat à durée déterminée, mais on est dans une relation à contrat à durée indéterminée. Et c'est donc à partir de ce moment-là que nous pouvons être convaincus qu'il vient nous restaurer, qu'il vient nous rétablir, que l'amour parfait qu'il a accompli, il l'a accompli une fois pour toutes par son Fils, qui est mort sur la croix, qui est pénétré une bonne fois pour toutes dans le lieu très saint qui intercède à la droite du Père. Et ça veut dire qu'à chaque moment où il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, à chaque moment où il y a des choses qui dysfonctionnent dans ma vie, je peux contempler Jésus, je peux m'adresser à celui qui est à la droite du Père en sachant qu'il intercède sans cesse, tout le temps pour moi, quelle que soit la situation dans laquelle je suis. Je ne suis plus dans cette relation légaliste, vous savez, où je pense que parce que je n'ai pas pratiqué quelque chose avec Dieu, que Dieu va m'abandonner. Non, lorsque vous avez fait des choses qui ne sont pas bien, contemplez à Jésus. Vous avez cette conviction, vous avez cette certitude qu'en tout temps, le Père vous aime à cause de Jésus-Christ. Il a rétabli, il a restauré cette relation avec vous. L'amour parfait vient de Dieu. C'est lui qui a fait le premier acte d'amour, une fois pour toutes, en donnant Jésus, en le livrant à notre place. Et ainsi, le malheur qui devait nous frapper, c'est Dieu lui-même qui l'a pris à la croix et à la place. À chaque fois que le malheur, normalement, devait nous frapper, Dieu nous regarde comme étant juste et comme étant justifié. Nous n'avons aucune crainte à avoir. Dieu nous rétablit dans la relation avec lui-même, mais bien plus, il nous restaure. Vous savez, dans ce texte, il nous est dit qu'il nous rétablit même dans notre pays. Alors, au-delà d'une question de rétablir le peuple d'Israël, qui est, je crois, quand même contenu hein, dans ce passage, je crois qu'il s'intéresse à l'Église, le peuple de Dieu que nous formons. Il est capable de nous rétablir dans la relation que nous avons avec nos familles, avec nos proches. Il est capable de pouvoir rétablir cette relation d'amour. Et de la même façon que le Père, par le Fils, et l'initiateur de cet amour, même face à ceux qui ne voulaient pas recevoir l'amour, nous allons pouvoir être à notre tour des instruments de restauration, de réconciliation avec ceux qui ne voulaient pas nous recevoir. Une fois un cœur nouveau, Dieu change nos situations. Il transforme notre misère en un véritable bonheur. Et il est même dit dans ce texte que Dieu nous restitue notre héritage bien au-delà de ce que nous pouvions penser et imaginer. Et le résultat, donc, c'est dans ce texte le retour de l'exil, et l'Ancien Testament emploie des images pour nous parler, et il est en train de nous dire que lorsque nous n'arrivons pas à fonder quelque chose, et peut-être que dans votre vie, vous avez essayé à plusieurs reprises de fonder, de rétablir des relations, peut-être de les établir. Je parlais de ces couples qui ont peut-être pu divorcer à plusieurs reprises, de ces personnes qui ont peut-être voulu même fonder une entreprise, peut-être créer ou s'établir dans des relations de travail, mais qu'ils n'ont pas été capables. Eh bien, la Bible nous dit que si nous acceptons de nous tourner vers Jésus, que tout cela peut changer. Qu'enfin, nos projets pourront aboutir. Alors, pas forcément comme nous le souhaitions. Hein, si vous pensiez que vous alliez terminer le grand président d'une entreprise qui est dans le CAC 40 ou que vous alliez avoir une abondance telle que vous l'imaginiez, ce n'est pas forcément ça, obtenir la bénédiction, mais c'est établir la paix, la restauration avec ceux qui sont autour de vous. Et ce qui semblait impossible devient possible. En Deutéronome 30, verset 4, il semblait impossible que des hommes pris de l'autre bout du monde, comme je le disais, soient capables de revenir, et pourtant Dieu s'engage. Il les rendra plus heureux et plus nombreux que leurs ancêtres, nous dit l'Écriture. Mais surtout, ce que Dieu vise, c'est une relation apaisée avec lui. La joie de pouvoir connaître Dieu, de développer une relation privilégiée avec lui, une relation qui donne envie. Et cette relation d'amour, comme je le disais, est à l'initiative de Dieu. Si nous ne pouvons pas aimer Dieu de nos propres forces, parce que son amour nous rend incapables de pouvoir l'aimer en retour, eh bien, sur son initiative, il circoncie notre cœur, c'est-à-dire qu'il ne nous abandonne pas. Il nous confie son esprit, qui nous donne une orientation nouvelle, qui nous donne un cœur nouveau, capable de pouvoir l'aimer. Et c'est de là que découle tout le reste. En Deutéronome 30, verset 6, il dit qu'avec un cœur nouveau, nous saurons nous aussi l'aimer. Et qu'ainsi, à partir du moment où nous l'aimons, nous vivrons, vous savez, la véritable vie, le véritable bonheur, la vie véritable, la vie en abondance telle que nous parle Jésus, celle qui atteint sens, celle de se savoir aimer et de pouvoir aimer en retour. C'est en connaissant celui par qui l'on est créé, que notre âme se trouve apaisée et peut enfin rentrer dans sa destinée. C'est alors que l'on peut construire et enfin voir l'aboutissement de son travail. Cette parole que Moïse nous livre Elle est valable pour aujourd'hui, aujourd'hui déjà dans l'ancienne alliance, mais aujourd'hui aussi dès maintenant. Il nous est dit dans 30, verset 10, « Pourvu que vous l'écoutiez, en obéissant à ses commandements et ses ordonnances, consignées dans ce livre de la loi, et que vous reveniez à lui de tout votre cœur et de toute votre âme. » Je le remets dans le contexte, non pas revenir par nos propres forces, mais revenir en faisant le constat que par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de le faire, et que nous sommes donc en manque d'amour pour Dieu, et qu'à partir de ce moment-là, on ouvre notre cœur à l'amour de Dieu, et que ce commandement que le Seigneur nous donne soit vraiment ce commandement d'amour, cette réponse par amour. Ce commandement de Moïse est pour aujourd'hui, ce texte de l'Écriture est saisissant, c'est pour que tu entres aujourd'hui dans cette relation d'amour et d'intimité avec Dieu. Alors j'aimerais conclure en disant, peut-être que nous réussissons aujourd'hui dans nos œuvres, dans nos activités, et je crois que la première chose à laquelle vient nous interpeller ce livre du Deutéronome, c'est tout d'abord que si nous réussissons dans nos œuvres, eh bien c'est bien parce que c'est Dieu qui en est l'initiative, et donc que nous pouvons le remercier et prendre conscience que c'est parce que Dieu est avec nous, et que ce n'est pas parce que nous sommes capables de le faire, mais simplement parce que nous sommes dans cette relation apaisée, dans cette relation qui part de Dieu, et que nous ne sommes qu'en réponse avec Dieu. Et donc, remercions Dieu pour cela. Mais la deuxième chose aussi à laquelle, je crois, vient nous amener ce texte, eh bien, c'est peut-être que nous pouvons constater que dans notre vie, ce que nous avons fait ne réussit pas, mais que, à partir du moment où nous ouvrons à Dieu, tout peut changer. Si tu acceptes de laisser de la place pour Jésus dans ta vie, eh bien, tout ce que tu avais mené jusqu'à maintenant qui allait à l'échec peut être changé et transformé. Et ce que tu ne pouvais pas réussir par toi-même va enfin pouvoir aboutir. Le texte que nous avons lu révèle le cœur de Dieu. Son désir pour toi n'est pas la mort et le malheur, mais la vie, la véritable vie et le bonheur. Ce bonheur dont tu as besoin se trouve dans l'amour et l'obéissance à Dieu. Ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager à faire le choix de marcher pour Jésus, parce que c'est là que se trouve la véritable vie. Nous avons vu aussi que ce texte nous dit que ce n'est pas la pratique d'œuvres qui peut nous donner d'être agréable à Dieu. Ce que nous ne sommes dans une espèce, vous savez, quand on essaye par nos propres forces, quand on essaye d'être dans cette espèce de troc avec Dieu, eh bien nous ne conduit qu'à aboutir à un sentiment, vous savez, c'est qu'on n'a jamais réussi à pouvoir faire tout ce que Dieu demandait. En fait, elle va même nous amener un peu à être noyé, parce qu'on a envie de dire, mais j'aimerais en faire plus pour Dieu. En fait, on se trouve complètement noyé dans nos propres œuvres. Mais elle nous appelle, ce texte de l'Écriture nous appelle vraiment à sortir de ce paradigme. Nous ne sommes pas capables, par nos propres œuvres, de pouvoir faire ce que Dieu veut. Et à partir de ce moment où nous sommes capables d'ouvrir notre cœur au véritable amour pour Dieu, et lorsque l'on se lève le matin et qu'on dit « Seigneur, je suis vraiment incapable par moi-même de pouvoir faire ce que tu attends de moi, mais je t'aime, et j'attends que, parce que tu me donnes un cœur nouveau, par cette circoncision nouvelle, je veux pouvoir t'aimer et pouvoir répondre à cet amour et faire ce que tu attends de moi. » Et c'est à partir de ce moment-là qu'enfin nous pouvons trouver le bonheur, la véritable vie pour notre âme. Alors, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à marcher pour Jésus? Alors, j'aimerais que nous puissions baisser notre tête et à ce que l'on puisse faire de la place dans notre cœur à cet amour dévorant qui nous appelle non pas à répondre par nos propres forces, mais à dire simplement « Je suis incapable, Seigneur, de pouvoir assez t'aimer, mais je crois en cet amour, à cet amour qui est capable de pouvoir remplir mon cœur, à cet amour qui, à partir de ce moment où il remplit mon cœur, va pouvoir m'amener à changer et va pouvoir m'amener à pouvoir prendre un véritable sens dans ma vie, une tournure nouvelle. » Je vous invite, si c'est le cas, à pouvoir répéter cette prière après moi. Seigneur, je prends conscience de ce que tu veux pour moi. Je ne suis pas capable, par moi-même, de pouvoir t'aimer. Mais je veux, Seigneur, que tu puisses créer en moi ce cœur nouveau, que tu puisses circoncire mon cœur, afin de prendre de la place, toute la place que tu dois prendre dans mon cœur. Et j'ai cette certitude, Seigneur, qu'en le faisant, tu vas pouvoir restaurer ma vie et lui donner vraiment un sens nouveau,
de pouvoir voir mes projets réussir, aboutir, et pouvoir enfin obtenir la bénédiction dans ma vie. Seigneur, je veux t'ouvrir entièrement mon cœur. Prends toute la place ce matin. Amen. Amen.
Voilà, je vous encourage vraiment à recevoir et à relire encore toutes ces paroles. Je vous encourage à reprendre, même si vous avez l'occasion au cours de la semaine, Deutéronome, vous savez, à partir du chapitre 28 jusqu'à la fin du Deutéronome, on a vraiment ce discours intense de la part de Moïse qui nous montre que toute la pratique des œuvres de la loi ne peuvent rien sinon lorsque l'on aime Dieu. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans un chemin de bénédiction, une véritable, vous savez, à la fois en même temps que l'on marche avec Dieu, ça devient véritablement une nourriture. Vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, tant qu'on reste dans l'ancienne alliance, on se trouve face à une nourriture où on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et à partir du moment où on se rend compte que Jésus devient notre nourriture, à partir de ce moment-là, on se met à aimer Jésus. Eh bien, à partir de ce moment-là, ça devient une nourriture. Et je m'épate de voir que, au-delà même de la pratique de la loi, à chaque fois que l'on marche avec Dieu, eh bien, Dieu nous nourrit, Dieu nous construit. Et chacune de nos actions, en fait, devient une véritable bénédiction dans notre cœur qui nous amène encore plus à aimer Dieu. Voilà. Amen. J'arrête ici le message. Mais vraiment que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force.